Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai pas envie à un moment qu'elle s'oublie au service de quelqu'un. Il y a toujours une dimension un peu réparatrice dans la parentalité. On essaie parfois à travers l'enfant de se réparer un peu soi-même.
Comment on apprend à se valider en interne et pas à attendre une validation dont on finit par dépendre.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Caroline ?
L'idée peut-être était de parler un peu de tous ces questionnements qu'on peut avoir quand on est parent et qu'on est par ailleurs féministe, de savoir comment ce féminisme il peut s'exprimer dans l'éducation et peut-être ouais, se questionner de dans quel moment de l'éducation on reproduit finalement des constructions sociales dont on a hérité, à quel moment au contraire on s'en rend compte et on essaye de les corriger. Et ça c'est une vraie question de tous les jours parce qu'on se rend bien compte que sur un milliard de sujets au quotidien, on se met en place des choses qui vont nourrir finalement des stéréotypes de genre et c'est très difficile de tous les déconstruire et en tout cas dans l'éducation, il y a beaucoup d'occasions de s'y confronter.
Combien vous avez d'enfants ? Quel âge ils ont ?
Alors j'ai une fille qui a 4 ans et demi. À la fois c'est comment on éduque une petite fille pour se préparer au monde de demain, tout en essayant de lui laisser le plus de liberté possible, dans le sens où je sais que j'ai envie de bien la préparer à ce qu'il attend, à la réalité du monde, justement, à des rapports de force, de domination, auxquels elle doit faire attention. Et en même temps, j'ai pas envie de l'effrayer. Enfin, j'ai envie de l'éduquer, par exemple, de lui dire que plus tard, quand elle sera grande, de faire attention quand elle sort le soir, de se protéger, de savoir se défendre. Et en même temps, je me pose la question aussi de me dire, mais dans quelle mesure l'espace public lui a... J'ai envie de lui dire que l'espace public lui appartient et qu'elle n'a pas à se poser de questions sur sa place dedans. Donc en fait, on est traversé par plein d'injonctions différentes et sur lesquelles c'est pas toujours simple. Et du coup, c'est vrai que c'est une conversation qui est toujours intéressante d'avoir parce que il n'y a pas eu une bonne réponse en fait. Mais le questionnement fait avancer.
Oui, là, vous parlez vraiment de votre ambivalence, finalement, dans des choses que vous avez envie de lui transmettre, mais qui peuvent être contraires, qui peuvent s'opposer. Comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes devenue mère ? Là, vous dites en plus l'enjeu plus particulier d'avoir une fille.
En fait, bizarrement, devenir mère, ça a été quelque chose d'assez ambivalent. C'était une joie incommensurable, je le nie pas du tout. Enfin, c'était vraiment quelque chose de... Et en même temps, pour moi, ça a correspondu à un moment où, en plus, je suis arrivée vers le féminisme un peu avant d'être mère. Donc, en fait, c'est assez tardif dans mon existence. Donc, et c'est assez drôle qu'il ait été concomitant. Et je sais, par exemple, que très curieusement, quand j'ai rencontrer des lectures, je me souviens par exemple Sorcière de Mona Chollet, où tout d'un coup je me suis dit mais mon Dieu, enfin à quel point j'avais pu subir la pression sociale d'être en couple, d'avoir un enfant, et je l'avais jamais perçu. J'avais jamais perçu par exemple le choix de ne pas avoir d'enfant comme un choix de puissance, quoi. Je l'avais toujours vécu comme une sorte d'échec. Et je me dis que peut-être, moi, je regrette pas du tout d'avoir eu un enfant, mais je me dis, j'aurais aimé avoir eu ces questionnements avant pour ne pas avoir l'impression d'avoir vécu autant de pression. Et moi, si je peux faire en sorte que ma fille, elle puisse faire des choix libres, quoi. Et ça, c'est vraiment... j'aimerais la préserver de mauvais choix ou de choses, de situations que j'ai subies et peut-être lui laisser qu'elle ait plus le sentiment d'être en prise sur les événements, sur ses choix, sur son existence.
Dans l'après-coup, vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été pleinement libre par rapport à ses choix ?
J'avais vraiment le sentiment, la pression sociale reste quand même quelque chose d'assez fort et... Du coup, c'est difficile à dire a posteriori, de dire est-ce que c'était vraiment un choix libre. En tout cas, ce n'était pas un choix complètement éclairé à l'époque. Parce qu'une fois de plus, je n'avais jamais envisagé l'idée de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Je ne l'avais jamais envisagé comme étant une possibilité, une fois de plus, comme un acte de puissance. À partir de là, c'est vrai que ce n'est pas forcément... j'avais pas le choix complet, en fait, au moment où j'ai fait le choix d'avoir des enfants. Et puis, je pense que le désir d'enfant, il vous fait parfois, disons-le franchement, baisser vos standards de choix de gens avec qui vous les faites parce que l'heure tourne et que... moi, je l'ai eu très tard, je l'ai eu à 42 ans. En plus, on a dû avoir recours à plusieurs FIV pour y arriver. Donc, c'était pas quelque chose de simple. Et je pense que j'étais pas complètement prête à aussi la parentalité. C'est vraiment la fin de l'égoïsme et j'ai l'impression de l'avoir... d'avoir pas eu le temps de l'être un peu, en fait. Et au moment où j'ai commencé à prendre toute la conscience de mes droits, de ce que je pouvais, etc., c'est le moment où j'avais pas plus beaucoup d'espace pour pouvoir le faire. Donc, une fois de plus, je veux pas avoir l'impression que la maternité est un regret. Pas du tout, parce qu'en plus, ça ouvre un autre champ complètement. Mais je trouve que ça m'a amené à des questionnements que je regrette de ne pas avoir eu plus tôt. Et c'est pour ça que je me dis, si dans mon éducation, je peux permettre à mon enfant de se poser ces questions-là plus tôt, elle fera plus vite des choix plus libres, plus éclairés, plus conscients, quoi.
Du coup, là, votre fille a 4 ans. Concrètement, déjà, qu'est-ce que vous avez mis en place ou de quoi vous parlez avec votre fille ou à quoi vous êtes vigilante pour déconstruire peut-être certains stéréotypes, certaines choses, et puis l'amener à une autre ouverture d'esprit.
Je sais que pendant un moment, je faisais hyper attention. Quand moi, je lui achetais des vêtements, je ne voulais pas lui acheter des trucs roses, des trucs trop... bizarrement, je faisais exactement l'inverse. Et ce qui est absolument génial, c'est que de toute façon, la nature rattrape... Enfin, la nature, quand je veux dire, le caractère d'un enfant rattrape, c'est... Vous avez beau lui coller du bleu et du machin, ma fille, elle voulait des paillettes et du rose et des licornes. Donc j'ai eu beau vouloir faire une éducation non-genrée, je ne peux pas lutter seule déjà contre la société. Et puis surtout, il ne faut pas lutter contre les goûts de l'enfant non plus, quoi. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de lui imposer de porter du bleu et de jouer avec des petites voitures. Si elle n'en a pas envie, il ne faut pas, à l'inverse, il ne faut pas vouloir le forcer. Mais par contre, je sais que j'essaye aussi de l'exposer à d'autres modes de pensée, à d'autres façons, à d'autres visions. Des fois, elle me disait... elle avait une robe, donc c'était une fille. Je dis non, pourquoi ? J'ai un petit garçon, il peut porter des robes, c'est très joli. Du coup, elle commence à se questionner. On était allé voir un jour, ça c'est magique, parce que quand ils sont petits, ils n'ont pas du tout tous les filtres. On était allé à la Gaîté Lyrique, ils organisent des lectures, les contes à paillettes. Donc c'est des contes lus par des drag queens. Et alors ma fille était en fascination totale en disant... Maman, Tata Foxy, elle est trop belle. Tata Foxy, elle avait les talons compensés, elle avait une robe bleue à paillettes. Ma fille a trouvé ça extraordinaire. Elle avait de la barbe, c'était génial, quoi. Et je trouve que, je me dis, c'est bien qu'à un moment, tout ça puisse, dans sa tête, être complètement cohérent. C'est tout à fait. Ça n'a rien d'incongru pour elle. Ça n'a rien de questionnant. C'est tellement. Il n'y a pas d'anormal chez l'enfant. Moi, j'ai essayé, de lui en parler un peu. Après, faut pas imposer, comme je dis, lui acheter des vêtements bleus, ça ne marche pas. En revanche, c'est discuter. Par exemple, elle voulait voir La Belle au bois dormant. Elle l'avait déjà vu, mais elle voulait le revoir. Et je pense que c'est le pire Disney de la Terre, je crois. Mais bon, je ne voulais pas non plus, là encore, lui interdire. Je voulais pas. Mais comment on l'accompagne? Alors, on l'a regardé. Après, on en a discuté. Je lui dis, alors, je ne voulais pas dénigrer son goût non plus ou ce qu'elle avait aimé. Donc, je lui dis que moi, ce n'était pas mon préféré. Alors, elle m'a demandé pourquoi. Et je lui expliquais quand même que je trouvais ça dommage. Je trouvais que La Belle au bois dormant, elle ne faisait pas grand-chose. D'abord, on lui jette un sort. Ensuite, ce n'est pas elle qui choisit. Ensuite, elle se pique au fuseau. Ce n'est pas elle qui choisit. Ensuite, elle s'endort. Ce n'est pas elle qui choisit. Elle se réveille. Ce n'est pas elle qui choisit non plus. En plus, c'est un prince qui l'embrasse pendant qu'elle dort, moyen. Mais après... Pour l'aider, je lui disais, en revanche, La Reine des Neiges, qui était son dessin animé préféré, je dis, là, c'est super, c'est quand même deux sœurs, elles font plein de choses, des fois, elles font des choses qui ne marchent pas, elles font des mauvais choix, mais enfin, elles font des choix, elles sont actrices, donc ça lui parle. Maintenant, elle le répète un peu, donc j'espère que je ne fais pas du bourrage de crâne non plus, mais c'est... Donc, la discussion, c'est... En tout cas, on peut pas les préserver de tout ce qui est... De tous les stéréotypes. En revanche... c'est une question d'accompagnement, quoi. Enfin, l'idée, c'est vraiment pas de supprimer dans la cancel culture. Gauguin était un pédophile et pour autant, je suis pas pour qu'on le décroche des murs, quoi. Mais par contre, ça s'accompagne. Il faut remettre dans le contexte d'une époque, de qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça questionne aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est moi, je trouve qu'il faut pas supprimer certaines choses.
Mais du coup, est-ce que vous êtes particulièrement attentive dans le choix des histoires, par exemple? Là, vous parliez des dessins animés.
Oui. Alors sur les histoires, là non plus, c'est pas simple parce que il y a tout l'univers dans lequel on a baigné les contes qui sont pas toujours les contes les plus progressistes de l'univers. Donc du coup, c'est d'essayer de lui offrir d'autres choix. Ça, c'est on a la chance de vivre dans une époque où il y a quand même aujourd'hui une offre qui se développe quand même beaucoup avec des choses plus originales. Il y avait des contes sur une princesse qui a une moustache, un livre génial qui s'appelle Les gens normaux, où c'est une petite fille à qui un garçon dit qu'elle n'est pas normale. Et du coup, elle se demande ce que sont les gens normaux. Donc, elle établit des statistiques toute la journée en disant les gens tiennent, quand ils croisent leurs bras, les gens normaux, ils mettent plutôt la main droite sur le dessus. Les gens qui aiment les frites, il y a ceux qui mangent avec la mayo, ceux qui mangent. Et en fait, elle établit des statistiques et à la fin de son enquête de la semaine, elle se rend compte qu'en fait, il n'y en a aucun qui est normal, quoi. Donc voilà, c'est d'essayer de faire ça. Pour le coup, après, il y a les librairies et les libraires sont d'assez bons conseils. Et d'ailleurs, je recommande aussi les librairies queer et féministes sont d'excellentes sources pour les livres pour enfants. Ils ont des petits rayons, mais avec des choix souvent assez détonnants, qui changent un tout petit peu des princesses. Mais là-dessus, moi, je me mets toujours dans la tête, quand je regarde un peu les histoires, je réadapte l'échelle de Bechdel, de me dire, alors il faut qu'il y ait au moins deux personnages féminins, il faut que ces personnages aient un nom, qu'ils se parlent et qu'ils parlent d'autre chose que d'un homme. J'essaie de me mettre une échelle un peu de ce type-là, pas tout à fait, mais d'essayer de trouver d'autres codes, quoi.
Est-ce que vous êtes seule à porter ça ou est-ce que le père de votre fille également est dans cette dynamique ou sur ce chemin avec vous ?
On n'a pas énormément d'échanges avec le père de ma fille, on est séparés et je ne suis pas sûre que mon féminisme était la chose qu'il a préférée chez moi. Et ce n'est pas quelque chose qu'on partage vraiment. Et par ailleurs, en plus, il y avait des difficultés relationnelles entre nous, mais qui, en revanche, moi, me servent aujourd'hui dans ma façon d'éduquer ma fille aussi, de me dire comment est-ce que je fais en sorte qu'elle, elle ne reproduise pas les schémas relationnels, parfois toxiques, que j'ai pu vivre parce que, quelque part, dans cette espèce de charge qu'on fait peser sur les femmes, de prendre soin, il y a des moments où on peut aussi disparaître et on peut chercher beaucoup d'excuses à l'autre. Oh, il est malheureux, oh, il est triste, oh, il a ceci, oh. Et en fait, finalement, on finit par ne pas voir ce qui est dysfonctionnel dedans et puis tout d'un coup finalement ne faire tourner sa vie qu'autour de l'autre, le fait de désamorcer tout ce qui peut le mettre en colère, etc. J'aimerais transmettre à l'inverse à ma fille, c'est là où il y a toujours une dimension un peu réparatrice dans la parentalité, on essaie parfois à travers l'enfant de se réparer un peu soi-même, mais c'est surtout c'est pour elle, j'ai pas envie à un moment qu'elle s'oublie au service de quelqu'un parce que la société a aussi beaucoup construit ce genre de choses, quoi, a beaucoup construit. Alors quand on est une personnalité qui n'aime pas le conflit, qui a vraiment envie de faire plaisir, on est le terrain le plus fertile pour justement des relations très, très asymétriques, quoi. Et ça, j'espère vraiment essayer. Enfin, je sais que quand elle revient de l'école ou qu'elle me dit que quelqu'un l'a embêtée, j'essaie de lui dire, il faut que tu te défendes. Tu as le droit d'aller le dire, mais il faut vraiment que tu te défendes ça. On n'a pas le droit de te dire ça. Enfin, je veux qu'elle exige autre chose pour elle-même, quoi, et toute seule.
Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais j'entends quelque chose un peu peut-être de désaccord, de point de vue avec le papa. Comment vous évoquez ça avec votre fille? Comment vous l'accompagnez justement par rapport à ça?
J'essaie surtout de, là encore, de la laisser actrice de la chose. C'est-à-dire que je ne veux pas lui imposer ma pensée, parce que dans l'antagonisme ou dans parfois les désaccords qu'on peut avoir entre parents, il y a ce qui relève de la parentalité, puis il y a ce qui relève de l'histoire de couple et de ce qui se règle parfois, de la queue de comète, entre guillemets, de la séparation. Ce n'est pas toujours facile d'avoir la lucidité de savoir qu'est-ce qui se joue. Et donc l'idée, ce n'est pas de créer un conflit de loyauté chez elle. Donc, parfois, elle est rentrée en disant « Papa a dit que tu avais dit ça ». Et donc, moi, en général, je renvoie. Je dis « Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça ?» Donc, je la renvoie à la réalité de ce qu'elle elle a entendu. Parce que ça, c'est le truc qui est fiable et sur lequel elle aura... c'est pas un acte de foi à ce moment-là. Elle sait ce qu'elle a vécu, vu et entendu. Donc... je la ramène à ça, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. Et puis après, des fois, je laisse glisser aussi, parce que je sais que des fois, elle provoque pour voir quelle réaction ça déclenche. Et moi, je fais attention aussi, parce que je ne veux pas qu'elle pense qu'il y a un tabou autour de ce qui se passe, de ce qu'elle vit chez son père, etc. Donc c'est hyper important de... Des fois, je la laisse dire, parce que des fois, il y a un peu de provocation aussi. Hein. Les enfants de parents séparés, parfois, peuvent jouer l'un contre l'autre. Donc, j'essaye de... c'est pas toujours évident. Hein. On n'est pas toujours... on n'est pas fait de marbre non plus. Mais pas essayer de lui transférer les arriérés de la relation de ses parents.
Caroline, si vous deviez définir ce que c'est une parentalité féministe, qu'est-ce que ça serait pour vous?
De lui dire que le monde lui appartient. Je suis venue très tardivement aussi à aimer la philosophie. Il y a un philosophe hollandais que j'aime beaucoup qui s'appelle Spinoza et qui, lui, quand il parle de joie, il ne parle pas de joie, youhou. La traduction de la joie chez lui, c'est ce qui augmente votre puissance d'agir. J'ai toujours trouvé que c'était ça. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'au fond, le but dans la vie, c'était d'essayer de se reprogrammer soi-même pour être plus exposé à ce qui augmente votre puissance d'agir. Et je pense que l'éducation féministe, c'est un peu ça, c'est un peu lui redonner toute sa puissance d'agir, lui redonner tout l'éventail de ses choix. C'est que sa vie lui appartient, son corps lui appartient, l'espace public lui appartient. C'est qu'à un moment, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a de limite que finalement le... la limite de bienveillance qu'on a envers les autres et de ne pas faire de mal et de cohabiter tous avec la nature et les autres êtres humains. Mais c'est de lui donner le sentiment que tout est possible pour elle.
Merci beaucoup, Caroline. Je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Ariane Calvo. Bonjour Ariane Calvo.
Bonjour Mathilde.
Tu es psychologue clinicienne, psychothérapeute spécialisée en psychotrauma, résilience, autonomie émotionnelle et transition de vie. Tu exerces en libéral à Paris et à La Rochelle et aussi en visio. Tu es l'autrice de nombreux ouvrages. Alors, pour les citer, il y a le manuel d'autodéfense contre les violences psychologiques, « Se protéger et s'en sortir », « Prendre soin de son adulte intérieur », « Les 5 étapes pour être libre et heureux », « Se réconcilier avec son enfant intérieur », « L'autonomie émotionnelle », qui est le dernier, si je ne me trompe pas.
Oui.
Le décodeur des violences psychologiques, le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire dont tu étais déjà venue nous parler, et trouver son élan vital. Dans mon cabinet, j'accompagne principalement des femmes autour de problématiques périnatales. Une grande majorité d'entre elles présentent des traumas, sans que ce soit toujours le motif de consultation au départ. Et comme toi, Ariane, une grande majorité de ces femmes sont traumatisées ou polytraumatisées par des violences sexuelles issues de tout le spectre des violences sexuelles. Lors de la préparation de cet épisode, tu me disais que depuis peu, quelques hommes ont commencé à consulter avec comme base de travail « j'ai violé quelqu'un ». Ce qui, en 9 ans d'exercice, n'était jamais arrivé. Et puis, d'un seul coup, voilà, ces 2 dernières années, il y en a eu plusieurs.
Tout à fait.
Ça t'a amené à t'interroger sur la question de l'éducation au consentement, qui est une éducation au respect des droits et de la liberté de chacun, ce que le féminisme revendique. Se pose donc la question d'une éducation féministe pour en finir avec les violences sexuelles, mais les violences plus largement.
Oui.
Tout d'abord, Ariane, pour toi, quel est le rôle et les conséquences des stéréotypes dans l'éducation ?
Alors, les stéréotypes dans l'éducation, Caroline y a fait référence lors de son témoignage, c'est toutes ces idées reçues ou façons de catégoriser des personnes en fonction de leur genre ou de leur couleur de peau ou de caractéristiques d'un groupe, disons, de personnes, avec des caractéristiques qui sont très peu dans la nuance, comme si toutes les personnes d'une certaine catégorie présentaient les mêmes caractéristiques, qui sont très peu dans l'exception et les particularités, et puis qui laissent peu de place à, au réel de ce que sont ces personnes-là, puisqu'on fonctionne à partir de projections ou d'idées reçues sur ce que doivent ou devraient être ces personnes-là. Et quand on s'intéresse aux stéréotypes dans l'éducation, le souci majeur, c'est la liberté de l'enfant à être soi, à être lui-même ou elle-même. Et dans ce cadre-là, la question des stéréotypes est majeure dans l'éducation, puisque ce que l'on souhaite pour nos enfants, c'est qu'ils puissent se réaliser pleinement. Et pour se réaliser pleinement, il faut pouvoir être soi.
Vaste sujet.
Oui.
Vaste programme. Et Caroline nous a bien dit que c'était pas toujours si simple, en effet, entre les projections, ce qu'on souhaite, et puis faire de la place à ce qu'ils sont, et puis l'impact aussi de l'environnement, de la société. Parce que vous parliez du rose et des paillettes, malgré le bleu que vous avez essayé de mettre dans les tenues vestimentaires de votre fille. Mais une fois que voilà, l'enfant aussi rentre à l'école, il y a tout un univers qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas.
Absolument. En plus de sa personnalité, il est lui-même ou elle-même traversé par ce que disent les adultes et les personnes qui sont autour de lui, les autres enfants, d'autres éducateurs comme le père, les oncles et tantes, etc. Un enfant est entouré de plein de messages, les histoires, les fictions, les dessins animés dont il assemble, en fonction de sa personnalité, les éléments pour en déduire des choses sur le monde. Et c'est là que c'est intéressant d'accompagner au moins la réflexion. Ce que je trouvais intéressant dans le témoignage de Caroline, c'est qu'on sent que ce qu'elle permet, c'est le questionnement. Et à partir du questionnement de l'enfant, effectivement, on a une route intéressante pour qu'il puisse aller vérifier en lui ce qui sonne juste ou pas. Puisque eux n'ont pas de stéréotypes
prédéfinis.
Oui, prédéfinis. On parlait de Tata Foxy tout à l'heure à la Gaîté Lyrique qui avait une barbe et des talons aiguilles. Eh ben, c'est OK que cette personne ait une barbe et des talons aiguilles, puisque en tant qu'enfant de 4 ans et demi, je ne me dis pas que un homme doit avoir une barbe et pas de talons aiguilles, et une femme des talons aiguilles et pas de barbe. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on leur apporte de l'externe. Et c'est intéressant de pouvoir leur laisser cette liberté de réflexion à partir du questionnement. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que ça te fait ? Pouvoir dire aussi ce que nous, on en pense. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui passent par la modélisation de nos comportements et par l'écoute. Mais avec cette liberté de pouvoir en faire quelque chose par eux-mêmes, sans pression parentale.
Du coup, toi, dans ta clinique, Ariane, qu'est-ce que tu vois des conséquences des stéréotypes liés à l'éducation, mais voilà, chez les patients adultes que tu accompagnes?
Alors, chez les patientes adultes que j'accompagne, et c'est vraiment très caractéristique du féminin, mais aussi un peu du masculin maintenant, ce que je constate, c'est que ça met beaucoup de temps jusqu'à ce qu'en thérapie, elles soient vraiment sûres que les décisions qu'elles prennent sont les leurs. Et ça, je pense que c'est une conséquence directe des stéréotypes de genre et d'une éducation non féministe, au sens où les parents ont intégré tellement fort et tellement profondément que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes droits et pas les mêmes caractéristiques, qu'elles ont intégré elles-mêmes cette question-là à l'âge adulte, et en particulier sur la question des choix que l'on fait. Puisque j'ai l'impression quand même que dans l'éducation, en tout cas que on a reçu ma génération, et je pense encore un peu en dessous aussi, une fille bien, c'est une fille qui fait plaisir et qui est attentive à répondre aux attentes de l'autre. Et quand ça, ça s'intègre profondément dans tous les champs de vie, que ce soit les choix professionnels, le choix des études, le choix du conjoint ou de la conjointe, le choix d'avoir des enfants ou pas, le choix du lieu de vie, le choix de s'occuper de ses parents ou pas. Enfin, la multitude des choix que l'on doit faire est immense et la multitude des choix que l'on fait en fonction de nos propres priorités en tant que femme est minuscule jusqu'à ce que l'on puisse déconstruire petit à petit les impératifs que l'on nous a collés dessus et qui n'étaient pas forcément les nôtres. Mmh. Et donc récupérer un filtre personnel qui soit quelles sont mes valeurs profondes, quelles sont mes aspirations profondes, quels sont mes besoins, et à partir de là, composer avec ceux de l'externe, mais que ça soit pas dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'externe m'impose ses besoins et moi j'essaye à tout prix de composer en me pliant en 12 psychologiquement pour y répondre quand même en existant un petit peu.
Oui, donc là dans ce que tu dis, finalement tous ces stéréotypes, ils amènent à se déconnecter profondément de soi, de qui on est.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est un enjeu, cette éducation féministe. Parce que c'est ce qui permet d'être vraiment soi et de se réaliser. Et j'ai dû le dire ici, mais vraiment, je suis aujourd'hui convaincue que ce qu'on appelle le bonheur, c'est intéressant d'avoir la version de Spinoza de la joie, ce qu'on appelle le bonheur, c'est vraiment le sentiment de se réaliser. Je le crois vraiment. Donc si on n'a pas accès à qui on est, on n'aura pas accès à comment je me réalise. Et si on n'a pas accès à comment je me réalise, je pense qu'on n'a pas accès au sentiment de bonheur.
Et du coup, pour toi, comment on peut avoir accès à qui on est ?
Dans ce jeu de l'individuation, qui commence à la naissance et qui ne finit jamais, je crois, cette vérification, réflexion au sujet de qui je suis, est-ce que ce que je vis me convient ? Est-ce que ce que je dis me convient ? Est-ce que ce que je fais est concordant avec qui je suis profondément ? Par ce jeu de l'apprentissage humain qui consiste à faire des essais, des erreurs, rectifier, vérifier, explorer, observer, on peut petit à petit comprendre qui on est et faire en sorte que notre vie soit composée le plus possible de choses qui nous ressemblent et que l'on désire. Et c'est quelque chose que les femmes naturellement, j'aime pas beaucoup ce mot, mais spontanément font très peu. Justement pas naturellement, c'est-à-dire parce qu'on leur a appris à vérifier ce que les autres en pensent et pas ce qu'elles en pensent elles. Et après, là où je apporterai une nuance, c'est que j'ai l'impression que s'il y a un endroit où on peut être vraiment concordant entre femmes et hommes dans cette lutte-là, je pense que les hommes souffrent aussi beaucoup de ce qu'on leur attend d'eux. Et que beaucoup d'entre eux déconstruisent justement en thérapie qu'est-ce qui était de leur ressort, qu'est-ce qui était leur vrai choix et qu'est-ce qui était attendu d'eux parce que homme ou parce que fils, et que l'on gagnerait tous à essayer d'adopter une liberté de pensée, de choix, de décision et de priorisation et de valeur.
Et donc dans la parentalité, ça passe, dans ce que tu dis, c'est la logique, dans le questionnement justement, oui, de ces stéréotypes, de ces croyances que l'on a, notamment sur l'éducation en tant que parent, et de questionner ce qu'on a soi-même reçu.
Oui, tout à fait. J'ai deux fils de 20 et 18 ans et je me souviens que le petit est revenu une fois de l'école en parlant, en disant qu'ils avaient parlé des homosexuels dans la cour de récré. Et il me dit, c'est pas normal. Alors je lui dis, ah bon, mais alors pourquoi tu penses que c'est pas normal ? Et c'est dans ce questionnement-là qu'on comprend le raisonnement de l'enfant. Si j'étais passée tout de suite par la case, mais si, mais tout à fait, tout le monde a le droit de choisir, etc. Il aurait probablement rien compris, il peut rien s'approprier de la réflexion, parce qu'il sait même pas ce qu'il en pense lui-même. Il sait ce qu'on lui a dit dans la cour de récréation. Et donc il m'explique ce qu'il trouve pas normal, et je lui dis, mais alors, ah bon ? Et donc tu penses que Madame et Madame, nos super amis qu'on voit tous les week-ends, les mamans de Margot, c'est pas normal. Quoi ? Les mamans de Margot sont homosexuelles ? Et donc là, il recable la réalité dont on parlait tout à l'heure avec la théorie de la cour de récréation. Et puis, après, j'ai laissé comme ça. Puis ça a progressé tout seul en lui. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, si je lui rappelais cette conversation, il serait complètement... il se trouverait un peu pathétique. Mais c'est comme ça que naît la conviction et puis la possibilité de faire des choix. Mmh.
Donc, se questionner soi et questionner ses enfants pour, comme vous disiez d'ailleurs, Caroline, cette difficulté de ne pas imposer ce qu'on pense, mais voilà, de laisser émerger les choses par le questionnement, justement, chez
l'enfant.
Exactement. Quand on préparait l'épisode, Ariane, tu me disais aussi que pour toi, voilà, tous ces stéréotypes, ils avaient un impact voilà, sur qui on est, on se déconnecte, etc. Mais sur cette dimension, justement, des violences, sur le fait que ça alimentait les violences.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Je pense que toute domination se construit et s'assoit, s'installe sur la base principalement des violences psychologiques. Mais aussi, on le voit à travers le monde, des violences physiques et sexuelles, puisque le viol est encore aujourd'hui une arme de guerre courante. Et je pense que lutter contre les violences, ou en tout cas choisir de proposer une société le moins violente possible, et je crois qu'elle pourrait être non violente, ça passe par la déconstruction des stéréotypes, et en tout cas par le choix délibéré d'organiser une éducation et un mode de vie qui décide de ne pas passer par l'oppression et la force pour imposer les choix de vie, les décisions, que ce soit les lois jusqu'à des décisions personnelles à ses concitoyens. Et dans ce cadre-là, je pense que l'éducation a un rôle immense à jouer, mais aussi la psychothérapie probablement. En fait, on est probablement plus militante que ce qu'on pense. Et je crois aussi que tout est politique, dans le noble sens du terme, où on fait des choix qui sont déterminants en termes de société et que tout ce que l'on se dit et tout ce que l'on travaille et tout ce que l'on choisit de nourrir en soi va nourrir aussi des modèles de société différents.
Pour toi, voilà, comment l'éducation, la parentalité féministe va venir répondre finalement à ces dominations ?
Alors, principalement sur la question du consentement, effectivement, tu le mentionnais en introduction, pour moi, c'est la base déterminante de la liberté, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on envoie le message à un enfant, qu'il soit garçon ou fille, que certaines catégories de personnes ont le droit d'imposer leur choix à d'autres parce que hommes ou parce que garçons, et que les autres sont filles ou femmes, on envoie le signal d'autorisation d'un modèle de société violent. Violent psychologiquement et aussi violent physiquement et sexuellement. Donc, et le consentement, ça se joue dans des toutes petites choses et l'oppression aussi. Et en particulier dans l'éducation où, de fait, il y a une hiérarchie intrinsèque à l'éducation qui est que les parents sont des adultes et que les enfants sont des enfants. Et que très souvent, on se sert de cette asymétrie pour imposer des choses sans le consentement de l'enfant. Alors, la question du consentement, c'est le consentement éclairé. Qu'est-ce que je donne comme élément à mon enfant pour décider de ce qui est bon pour lui ? Qu'est-ce que j'écoute ? Et comment je tiens compte aussi du fait que je suis un adulte et son parent est donc garant de sa sécurité, en particulier affective et physique, et qu'au nom du fait que je suis ce garant-là, et qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour prendre toutes les décisions, il y en a certaines que je vais devoir prendre pour lui. Mais en dehors de ces décisions-là, qui pour moi sont très souvent très claires pour un parent, il y a toute une marge de manœuvre possible pour laisser la place à un enfant, au moins de réfléchir à ce qui lui convient ou à ce qui lui est préférable ou à ce qu'il préfère.
Donc déjà, dans la relation parent-enfant, travailler sur cette notion de domination.
Oui.
En tant que parent, de ne pas se retrouver dans cette position-là.
Ne pas s'en servir.
Ouais.
On y est. Mais l'utiliser, c'est encore autre chose. Et c'est très difficile d'avoir un autofocus pour se voir faire parce que c'est complètement intégré. C'est-à-dire que nos parents nous ont dominés, nos grands-parents ont dominé nos parents et on pense que c'est normal. Mais ça ne l'est pas. ça ne l'est pas si ce qu'on veut, c'est que on puisse tous avoir l'éclairage suffisant pour savoir si on consent à quelque chose ou pas.
J'avoue que ça, c'est quelque chose. Moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, mais y compris à moi-même, hein, qui suis féministe, mais il y a des fois, ma fille, je veux lui faire un bisou, elle me dit non, je veux pas, et puis des fois, j'insiste un peu. Et en fait, je me suis vue faire l'autre jour, et je me dis non, en fait. Elle vient de me dire non, je n'ai pas à envahir son espace vital si elle me le dit non, et ça commence maintenant. Et j'ai beau être sa mère, j'ai beau être une femme, et donc on n'est pas dans. Et de ne pas être dans un rapport, je dis, mais en fait, le consentement, c'est maintenant que je lui apprends. Et ça s'applique à moi. Personne n'est exempt de. Effectivement, de reproduire. On a beau être éclairé, se poser des questions aux féministes, en fait, soi-même, on a encore des.
Des élans. Des empreintes de ce qu'on a reçu.
Oui, dans lesquelles on ne se voit pas faire. Et donc, c'est ce qui est pour moi essentiel, c'est d'introduire de la conscience là-dedans, dans notre fonction de parent. Et étant donné que j'ai l'impression quand même que l'éducation fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup par exemplarité, ou en tout cas par modélisation de nos comportements, et que c'est nos comportements, nos attitudes, la réponse aux sollicitations externes qu'ils observent et qu'ils intègrent le plus, bien plus que ce qu'on leur dit, comme sous forme de théorie, qu'ils ont du mal à s'approprier telle quelle. Il y a un enjeu majeur à se comporter de façon alignée avec ce qu'on raconte.
Oui, là, tu soulignes vraiment l'importance de l'exemplarité, en tout cas,
oui.
Et que les enfants apprennent par imitation.
Exactement.
Donc, que ça soit pour la question du consentement ou pour toutes les autres questions, d'abord, en tant que parent, soit le mettre en pratique, l'identifier,
tout à fait
en
ça.
Prendre conscience, comme oui. Tu disais, le mettre en pratique pour, finalement, ça aura plus d'effet que de longs discours auprès de l'enfant.
Vraiment, significativement plus, oui. Et on a du mal à se rendre compte de ça. Après... L'autre élément déterminant en éducation, c'est vraiment la parole libre, quoi. C'est ces discussions que l'on a que quand on a vraiment le temps de les avoir. Et donc, en dehors du système retour de l'école, goûter, douche, dîner, lavage de dents, rituel du coucher, qui est une espèce de tunnel dans lequel, en fait, au final, on ne se parle pas, il est important d'aménager des temps où, justement, on peut prendre ce temps long de la discussion, de la réflexion. Et puis, très souvent, les enfants, enfin, ça dépend de leur âge, mais disons avant 8-9 ans, ils fonctionnent par étapes dans leur réflexion. Donc, on leur donne un premier élément, ça chemine pendant qu'ils font autre chose la plupart du temps. Et s'ils n'ont pas ce deuxième temps ou troisième temps pour revenir à la question suivante, le pourquoi, eh ben, il y a quelque chose qui se perd dans la profondeur, justement, de la discussion qu'on aurait pu avoir. Donc, c'est intéressant aussi. C'est pas seulement du temps de qualité, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit dans le cas des séparations. C'est aussi de la quantité de temps qu'il faut qu'on passe avec nos enfants, pour cette raison-là.
Oui, ça, on l'entend pas beaucoup, parce que, justement, cette quantité, elle est pas simple dans les vies
surtout
actuelles.
Surtout à Paris. Oui, c'est vrai, mais c'est important, je crois. Tant pis, il faut qu'on le dise, même si c'est pas confortable à entendre. Je crois qu'il y a un enjeu majeur aussi dans la quantité de temps qu'on passe avec nos enfants.
Justement, pour les parents qui nous écoutent, Ariane, voilà, quelles seraient tes pistes ou tes conseils pour, en tant que parent, développer cette parentalité féministe ou travailler sur soi pour être un modèle plus solide, finalement, pour les enfants?
Alors, les lectures, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que là, quand même, depuis 2013 et depuis concrètement MeToo, la réflexion sur le sujet est immense, prend plein de biais différents. Et donc, il suffit de prendre le biais qui nous plaît le plus. Et la bande dessinée, le roman, la fiction, les films, les séries, tout ce qu'on veut. Et puis, tirer un peu le fil de la réflexion, observer aussi ce que ça fait en nous. Caroline l'a dit très bien, moi je suis convaincue que la psychothérapie apporte quand même une forme de liberté de pensée dans le fait de déconstruire les règles et les conventions dans lesquelles on a été élevé et pouvoir choisir de s'en approprier certaines et d'en laisser d'autres et d'en construire des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a quand même un enjeu à avoir conscience de soi et à se dire, parce que sans ces deux mouvements-là, c'est très difficile de remettre en question des systèmes ancrés et intégrés pendant des années d'éducation, justement.
Quand tu évoques ça, ça m'évoque aussi la question de l'éducation aux émotions.
Oui, exactement. C'est essentiel, en fait. Tout ce que nous faisons aujourd'hui en psychothérapie, j'espère que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui ont donc accès de plus en plus à tout ce monde des émotions, à une autorisation nouvelle à exprimer des émotions, n'auront pas à le vivre en thérapie, en tout cas, parce que ça fait gagner tellement de temps sur la connaissance de soi, de pouvoir savoir ce qui nous traverse et pouvoir le dire tranquillement et sereinement, et du coup pouvoir le réguler une fois que c'est exprimé, entendu, que je pense que beaucoup de choses vont être beaucoup plus simples dans les relations interpersonnelles.
Ouais, dans ta clinique, les adultes que tu reçois, justement, qu'est-ce qui est compliqué par rapport à cette question des émotions ?
Alors, pour les hommes... En tout cas, jusqu'à ma génération, c'est évident qu'il y a une injonction au verrouillage émotionnel, comme si les émotions étaient vraiment quelque chose non seulement d'indésirable, mais d'inconvenant. C'est-à-dire quelque chose qui ne se vit pas et qui ne s'exprime pas quand on est quelqu'un de bien. Quand on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un de rationnel. Et quand on est quelqu'un de rationnel, ça suppose de ne pas vivre d'émotions. Ce qui est... les deux affirmations sont fausses. Donc déjà, on commence par un truc compliqué. Et pour les femmes, il y a la méconnaissance émotionnelle de soi-même, puisque toutes les émotions ne nous sont pas autorisées, en particulier la colère. Pour les hommes, c'est en particulier la tristesse et la peur qui leur sont pas autorisées. Et que l'expression émotionnelle est très, très vite taxé d'irrationalité, voire de hystérie, folie, etc., qui est quelque chose de compliqué pour les femmes. Moi, je me rends compte qu'on a quand même un bagage transgénérationnel multimillénaire et que cette accusation d'hystérie et de folie qui va très, très vite quand on exprime de l'émotion a beaucoup, beaucoup d'incidence sur la façon dont on se positionne et dont on vit nos émotions.
Le fait qu'il y ait ces verrouillages émotionnels, Ariane, quel impact ça a concrètement dans la vie des adultes
d'aujourd'hui ? Ils ne savent pas qui ils sont. Quand on ne laisse pas d'accès et de connaissance à nos propres émotions, on passe sous silence tout un tas d'informations que notre système corps-esprit veut nous envoyer au sujet de nous-mêmes, de ce que l'on vit et de comment on est en train de le vivre. Pour moi, les émotions sont vraiment des informations. Alors, elles ne sont pas toujours justes. Je pense particulièrement à la peur. Elles ne sont pas toujours pertinentes, mais elles sont toujours intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt, quelque chose à apprendre de ce qui nous traverse, que ce soit pour y répondre ou pour décider de ne pas y répondre. Mais dans tous les cas, quand on se prive de nos émotions, on se prive d'informations au sujet majeur, au sujet de comment on est en train de vivre ce que l'on vit ici et maintenant.
Ce qui peut amener, là je pense du coup aux patientes, aux femmes que j'accompagne, à ne pas reconnaître la violence dont elles sont victimes, par exemple.
Bien sûr, parce que ça entraîne, pour pouvoir supporter la vie sans émotion, ça entraîne des formes d'anesthésie émotionnelle qui entraînent des formes d'anesthésie à la vie tout court. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne sait pas qu'on a peur, quand on ne sait pas qu'on est en colère, on finit par ne plus savoir qu'on est violenté.
Et pour les hommes, finalement, le fait d'être déconnecté de la tristesse ou de la peur, de ne plus percevoir finalement qu'ils peuvent exercer de la violence ?
Oui, parce qu'ils sont privés de leur empathie. Comme les émotions, la communication émotionnelle fonctionne en deux temps. Si je ne peux pas me connecter à mes propres émotions, je ne peux pas me connecter aux émotions de l'autre. Quand quelqu'un m'exprime une émotion, le premier mouvement psychique, c'est que ça me ramène à cette même émotion chez moi, à comment, moi, je vis cette même émotion. Si une patiente pleure dans mon cabinet, le premier mouvement psychique totalement inconscient qui va se créer en moi, c'est que ça va me ramener à la façon dont moi, Ariane, je vis ma propre tristesse. Si ça, c'est calme, je peux faire le deuxième mouvement psychique qui est d'entendre vraiment la tristesse qu'est en train d'exprimer un patient ou une patiente chez moi, dans mon cabinet. Si c'est pas calme, je vais faire ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire minimiser l'émotion, essayer de la faire taire, faire parler d'autre chose, dire ça va aller, mais si je t'assure, essayer de trouver des solutions alors que la personne n'a pas forcément besoin à ce moment-là ou qu'elle ne peut pas les mettre en œuvre, et je vais interdire son expression émotionnelle, de fait.
Caroline, dans votre cheminement, vous évoquiez voilà, d'aller vers plus de liberté, de choix. Est-ce que voilà, il y a eu ce besoin de se reconnecter à vos émotions ou en tout cas, vous avez découvert des choses par rapport à ça ?
Oui, C'est très intéressant parce que je sais que quand on est parent solo, une petite fille, il y a eu des moments où, en plus, moi, je suis très sensible, justement, à ces émotions. J'ai acheté tous les bouquins de Petit Panda, de Grenouille, enfin, le livre des émotions. Vraiment, j'étais à fond là-dessus. Et c'était assez drôle, c'est qu'il y a un moment dans ce truc-là, je l'ai fait aussi, d'une certaine façon, comme si c'était une injonction. Et il y a eu un moment où, dans le rapport, l'enfant va chercher des phases d'opposition. Et je me souviens d'avoir eu des moments de grande détresse, parce qu'il y a des moments où je perdais patience. Et en fait, le truc, c'est que j'étais tellement dans la gestion des émotions que j'en avais oublié que moi aussi, j'en avais. Et qu'il y a un moment où, quand je suis en colère, il faut s'extraire à ce moment-là. Il ne faut pas rester dans le dialogue, parce que le dialogue, il est... Enfin, ou en tout cas, il faut au moins avoir conscience de son émotion pour pas qu'à un moment, justement, ça déborde. Et je me rends compte que mieux j'ai écouté mes émotions et plus apaisée j'ai été pour gérer celle de mon enfant. Alors que ma première approche avait été vraiment de me focaliser sur ses émotions à elle et de nier les miennes, en fait, quoi. Et en fait, le dialogue, il ne peut pas se faire si on nie, parce que finalement, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'être soi, je trouve que ça passe, il y a quand même deux choses dedans. C'est d'abord, c'est une histoire de conscience aussi. Enfin, je trouve qu'on est quand même toujours beaucoup plus libre quand on a les yeux grands ouverts, quoi. Et ça, c'est hyper important d'arriver à avoir conscience de ce qu'on fait, de faire les choses en conscience. Et la deuxième chose, c'est que rien n'est figé, quoi. Les stéréotypes, ils viennent du fait qu'on essaie d'assigner, finalement, à une nature de choses, à essentialiser. Mmh. C'est parce que c'est comme ça, alors que c'est quelque chose de très mobile et de très fluide, d'où l'importance du dialogue. Enfin, moi, je donne toujours une analogie, mais quand on ne naît pas marathonien. On peut naître avec un goût pour courir, mais pour autant, on n'est pas capable de se faire un marathon. On va s'entraîner, on va programmer son corps et on va... Et ben je pense que c'est exactement la même chose dans notre rapport, justement. On n'est pas né quelque chose, on peut apprendre, on peut faire évoluer. Et ça ne peut se faire que si on est en conscience. Donc je trouve que c'est les deux, à la fois d'être conscient des choses et à la fois de se dire que c'est tout ça est mobile, quoi, et pas du tout figé.
En tout cas, vous donnez une bonne métaphore de ce que c'est que la parentalité, en tout cas, à mon sens. Vous l'évoquiez d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, Caroline, cette question, on parlait du care, etc. Et dans tout ce qui s'est dit, j'entends aussi l'importance de sortir, notamment et plus particulièrement les petites filles, justement, de cette position de care, de faire plaisir. Vous disiez d'ailleurs, Caroline, ça faisait un peu source d'ambivalence pour vous, à la fois de lui dire, voilà, c'est quand même bien de faire plaisir et qu'il peut y avoir du bon là-dedans, et en même temps, voilà, l'importance de se défendre, de savoir poser des limites.
Et l'autre chose aussi, c'est pas seulement de... sortir du fait plaisir et des attentes de l'autre, mais aussi de la validation de l'autre. C'est-à-dire comment on apprend à tout le monde, en particulier aux filles, parce qu'on ne sait pas du tout faire, mais je pense que les garçons aussi ont des pressions externes assez fortes de ce point de vue-là, à se valider en interne et pas à attendre de l'externe, donc des autres, de nos référents, une validation dont on finit par dépendre et qui entraîne une dépendance qui nous met à l'arrêt dans la vie autonome, quoi, dans l'autonomie émotionnelle. C'est qu'est-ce qui fait que je vérifie en moi ce qui est important pour moi et ce qui me semble juste à moi. Et ensuite, je vois comment en externe, je peux le mettre en place effectivement sans blesser quelqu'un, sans... marcher sur la tête de quelqu'un d'autre et en me respectant et en respectant les autres. Mais cette validation essentielle en interne, c'est un enjeu majeur de l'adulte et ça s'apprend dans l'enfance. Et comme premier référent de nos enfants, on a évidemment un rôle majeur dans le fait de leur apprendre à se repérer en fonction de ce qu'ils sont et pas en fonction de ce qu'on attend d'eux. Ce qui suppose être conscient de nos attentes envers nos enfants et de tout ce qu'on projette sur eux, de ce qu'on voudrait réparer de nous-mêmes. Qui est encore un autre sujet.
Oui, mais comment tout ça s'entremêle et peut amener justement à ne pas y voir très clair.
Exactement. Et c'est pour ça que la parentalité féministe, c'est beaucoup plus que de se dire que les hommes sont méchants, quoi, et tout ce qu'on voudrait caricaturer. C'est quel modèle de société et de liberté d'existence on a envie de faire advenir à travers ce qu'on propose à nos enfants.
Du coup, quel est le rôle des pères pour toi dans cette éducation
féministe. Le même. Sauf que la prise de conscience est plus complexe parce que dans toutes les oppressions, on le sait, hein, les personnes qui détiennent les privilèges mettent plus de temps à comprendre quels sont leurs privilèges et donc quelle oppression ils exercent sans s'en rendre compte parfois, et à sortir, à trouver des modes de résolution qui sont différents de l'oppression qu'ils exerçaient auparavant. Ce qui suppose parfois de renoncer à des privilèges, même souvent.
Et du coup, concrètement, pour toi, ça passerait par quoi dans la vie de famille ou dans la parentalité ?
Alors, l'exemple. Qu'est-ce que, en tant que père et mère, dans le cas d'un couple hétérosexuel, on montre à nos enfants du modèle de société et de la liberté de conscience et de la liberté de choix qu'on a envie de proposer à nos enfants ? Qu'est-ce que ça veut dire de choisir son métier, choisir ses journées, choisir ses soirées, choisir ses amis, choisir la façon dont on communique ? Est-ce qu'on a des attentes envers notre conjoint qui sont ajustées, pas ajustées ? Comment on en discute devant les enfants ? Parfois pas devant les enfants, mais ils y assistent quand même, parce que les oreilles des enfants ont une espèce de super pouvoir qui traverse les murs et les espaces. Donc... voilà, c'est toutes ces questions-là. Mais principalement l'exemplarité quand même. Qu'est-ce que je montre à travers mon propre comportement dans le couple et dans ma forme de parentalité de ce que j'ai envie de proposer à mes enfants comme mode de vie plus tard ?
Oui, quelle place, quel rôle, comment je m'investis dans les tâches domestiques.
Dans toutes les tâches.
Dans le care. Et que le père ou l'homme n'est pas que là pour aider, qui prend sa part.
Dans la tendresse, dans l'accompagnement scolaire, médical. Ma relation à mes propres parents aussi, pas seulement à mon conjoint. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans ce modèle-là.
Et ça fait, moi j'avoue, ça fait grandir aussi. C'est, curieusement, moi il y a des choses que je tolérais pour moi-même. Mais quand je suis devenue mère, tout d'un coup, je me suis dit, j'aurais pas envie qu'elle vive ça. Et à partir du moment où j'ai pas envie qu'elle vive ça, c'est que je peux pas lui montrer que moi je l'accepte. Ouais, et en fait, ça m'a obligée moi-même à me. Enfin, je trouve que c'est ça, de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose, un système où on se nourrit mutuellement avec l'enfant aussi. C'est pas juste descendant comme.
Complètement.
Comme l'éducation. C'est vraiment une relation. Un process hyper. C'est une vraie relation.
Oui, là, ce que vous dites, ça m'évoque aussi peut-être l'importance d'apprendre aussi à être en conflit.
Oui.
Et à faire face aux conflits et que finalement, il peut y avoir des conflits, heureusement, très constructifs et que par moments, on ne peut pas éviter le conflit.
Oui. Et qu'est-ce que c'est de prendre soin de la relation, même dans le conflit ?
Oui, que ça ne brise pas forcément le lien.
Ouais.
Ce qui est l'inquiétude de beaucoup de gens, ce qui fait qu'ils n'entrent pas dans le conflit, mais que du coup, tout reste figé.
Absolument.
Dans quelque chose d'insatisfaisant et parfois même de douloureux.
Comment ça pourrait être un conflit où tout le monde apprend, où tout le monde se respecte, où même qui reste sous forme de désaccord ?
Là aussi, il y a du travail. Ariane, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de rajouter ? Je sais que cette question de lutter contre les violences est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre d'autres aux parents qui nous écoutent ?
Pour moi, l'essentiel est dans cette prise de conscience des dominations. Comme dans la violence psychologique qui est complètement masquée et déguisée en « c'est pour ton bien », en bonnes intentions, en... volonté de trouver la solution la meilleure possible pour l'autre. Dans la parentalité aussi, on a ce risque-là, au nom de « c'est pour ton bien », de nos bonnes intentions, croire, savoir à la place de l'autre, à la place de notre enfant, ce qui est le mieux pour notre enfant. On a ce risque-là de créer de la violence psychologique, de la silenciation, de l'annulation de soi, de pousser notre enfant à une forme de sacrifice personnel ou de verrouillage émotionnel qui n'est pas du tout ce qu'on lui souhaite. Donc si vraiment on lui souhaite du bien, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de ces leviers-là qu'on utilise malgré soi ou sans s'en rendre compte et qu'on autorise autre chose, qu'on travaille vraiment de façon impliquée, volontaire et consciente à organiser un autre dialogue éducatif avec nos enfants.
Tu vas vraiment dans le sens de la citation que j'avais choisie pour, avec toi d'ailleurs, pour finaliser, conclure cet épisode de Lucille Bélan, qui dit « C'est intéressant quand on a des enfants de se dire que c'est le bon moment pour travailler sur sa propre histoire familiale et personnelle. En face, on a une page blanche et on ne veut pas l'éclabousser avec ses propres problèmes. Les parents disent souvent qu'ils veulent que leur enfant ait confiance en lui et ils ne voient pas qu'ils ne sont pas bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça, les enfants s'en rendent compte. »
Et oui. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on propose, quoi ? Dans la construction et pas juste dans l'opposition. Comme disait Caroline, comment on grandit de l'éducation qu'on donne à nos enfants ?
Oui, la parentalité, c'est aussi un chemin psychothérapeutique en soi.
Complètement. Et une énorme découverte de soi-même.
Merci beaucoup, Ariane. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Alors, Caroline, lecture, vidéo, podcast, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander ?
Alors, moi, je vais recommander, c'est une BD d'une autrice qui s'appelle Blanche Sabat et qui a écrit un livre qui s'appelle Mythes et Meufs et qui décortique des, dans la mythologie ou des dessins animés. Et je dois avouer, par exemple, que c'est comme ça qu'elle m'a complètement rassurée sur le fait que ma fille adorait la Reine des Neiges, ce qui m'atterrait totalement parce que j'avais jamais trouvé que c'était le plus grand Disney. Et en fait, elle explique à quel point ce que véhicule la Reine des Neiges est assez puissant d'un point de vue féministe parce que c'est quand même d'abord deux sœurs qui sont très actives. Et puis, il y en a une à la fin, elle monte sur le trône, elle est reine, elle est sorcière, elle est célibataire. Donc, en termes de modèle, finalement, c'est assez intéressant. Et en fait, elle fait ça sur plein de... Pas que sur la Reine des Neiges, mais sur la mythologie aussi. Et c'est vraiment passionnant et ça permet aussi de, voilà, dans nos têtes aussi, tout d'un coup, de prendre conscience de tout l'univers, le référentiel culturel auquel on est exposé, à quel point il est chargé, quoi.
Ariane, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander ?
Tous les livres de Bell Hooks. Et il y en a un en particulier sur l'éducation dont le nom en français, le titre en français m'échappe, mais que tu
apprendre à transgresser l'éducation comme pratique de la liberté.
Exactement. Qui ont été une révélation pour moi cet été, enfin l'été dernier, où j'ai passé tout mon été à lire Bell Hooks. Et j'aime énormément... Bon, d'abord, il y a une conjonction de lutte contre les dominations, puisque Bell Hooks est noire, qu'il y a des choses qui se recoupent, évidemment, dans toute forme d'oppression, et celle-là en particulier, celle de la couleur de peau ou des origines, et celle du féminisme. Aussi, dans sa façon d'intégrer les hommes à la réflexion, dans le sens d'une volonté de coopération qui a été très questionnée et qui est questionnable dans le mouvement féministe. Mais comment parvenir à une coopération le plus vertueuse possible de tous et toutes dans cette volonté de créer des relations pacifiées, enrichissantes et qui permettent une réalisation personnelle, quel que soit notre genre, notre couleur de peau, notre sexualité, nos choix de vie.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de recommander ?
Lucille Bélan.
Alors, le petit traité d'éducation féministe, en effet, aux éditions Le Duc. Il y a aussi « Qu'est-ce qu'une éducation féministe ?» de Vanina Mosiconacci.
Oui, tout à fait. Alors, c'est plus difficile à lire que Lucille Bélan. Lucille Bélan, c'est limpide et à mettre entre toutes les mains. Sur l'autre livre dont tu parles, c'est un livre extrait d'une thèse de doctorat et donc plus difficile, mais passionnant.
Et puis moi, je recommande également alors la vidéo que tu m'avais recommandée, Ariane, sur le consentement et la tasse de thé qu'on trouve sur YouTube.
Voilà, oui, en qui anglais est vraiment très et en français, oui. C'est vraiment limpide. Et alors, pour le coup, ça peut se montrer relativement tôt dans l'adolescence. Je ne sais plus à quel âge j'ai montré ça à mes garçons, mais vers 13-14 ans, sans problème, ils comprennent tout à fait de quoi il s'agit.
Et puis, je recommanderais également un livre pour enfants qui s'appelle « Le Bel au bois dormant » et autres contes où les princesses volent au secours de leur prince, qui est un livre qui déconstruit justement « La Belle au bois dormant » et les contes plus traditionnels. Donc, c'est de Carrie Franceman et Jonathan Plaquette. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Caroline, d'être venue partager avec nous votre histoire. Et merci beaucoup, Ariane Calvo. Je rappelle que tu es psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en psychotraumatisme et que tu exerces en libéral à Paris, à La Rochelle et en visio. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture !